Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Jeannick Halimi.
Bonjour.
Et bonjour Justine et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique. Et évidemment, aujourd'hui, on va être servi avec Catherine Ney, donc réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. 25e émission de cette saison. Jeannick Halimi, vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du journal Le Parisien.
Bonjour et Olivier.
Également aujourd'hui en France. Vous êtes co-auteur avec Frédéric Delpech de TF1 d'un ouvrage qui
et
vient...
LCI.
Et LCI. D'un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle « Le jour où la droite se saborda », ou qui va sortir plus exactement...
Qui sort dans quelques jours le 20 février,
voilà,
effectivement.
Aux éditions de l'Archipel. Et donc vous suivez de très près l'actualité politique. Et l'actualité politique, peut-être même la vie politique française, vient de connaître, pas plus tard qu'hier matin, un tournant assez considérable avec le retrait de Benjamin Griveaux, qui était tête de liste de La République En Marche sur Paris. Mm-hmm. Parce que, a-t-on vite appris d'ailleurs, en précisant ce qu'il va dire lui-même, que vous allez entendre dans un instant, que circulait sur Internet une ou des vidéos. Alors, j'ai noté que dans les premières heures, on disait de sexe explicite, on précisait même de quoi il s'agissait, et puis maintenant on dit des vidéos intimes, donc on n'accentue pas trop sur le contenu des choses. Vidéos qui existent depuis mai 2018, qui avaient été envoyées par apparemment l'intéressé à une femme qui n'était pas son épouse, mais qui était, avec laquelle il entretenait, de ce que l'on a compris, une relation parfaitement consentante. Donc quelque chose, c'est peut-être un point central et important, qui n'est en rien illégal, même par tous les biais. S'il y a quelque chose d'illégal, il n'y a qu'une seule chose d'illégal, c'est la diffusion de cette vidéo.
Exactement.
Donc écoutez Benjamin Griveaux hier.
Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles, mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Cette décision me coûte, mais mes priorités sont très claires. C'est d'abord ma famille, vous l'aurez compris. Et puis, c'est le projet pour Paris, celui que nous avons construit et pour lequel nous sommes beaucoup battus. Ce projet, aujourd'hui, il vivra mieux sans moi.
Voilà, c'était donc hier matin, et Capucine Patouillet a choisi de vous mettre une part importante de sa déclaration, notamment en laissant ses silences qui donnent une idée de l'étendue du bouleversement que vit cet homme et les siens. Est-ce qu'il s'agit d'une étape nouvelle, de quelque chose de nouveau, ou comme l'a dit par exemple Marine Le Pen, ça a toujours été comme ça, rien de neuf sous le soleil?
Ce qui est nouveau sont les images. Enfin, il y a toujours eu des histoires de vie privée, des accusations depuis l'affaire Markovitch. Enfin, on a toujours essayé.
L'affaire Markovitch, c'était pour ceux qui la connaissent, en 68-69. Une machination, tout
voilà.
Était faux, avec ouais. Des fausses photos voilà. Et tout, contre
mais
Jean
en France,
Pompidou et son épouse.
Les scandales et ce qui poussait en général la démission, c'était pour des raisons d'argent. Combien ils avaient touché, s'ils avaient ou frauduleuses de fiscales. C'était ça le scandale en France. Alors qu'en Angleterre, tous les ministres qui tombaient, c'était toujours pour des affaires sexuelles. Bon, là, c'est nouveau, c'est pour une affaire sexuelle qui n'est pas illégale, ça n'est pas un viol. C'est l'histoire d'une relation librement consentie. Mais entre un ministre, puisque c'est ces choses qui sont sorties et qui ne devraient pas sortir, enfin c'est la digue a sauté, il n'y a plus de différence entre la vie publique et la digue s'est rompue entre vie publique et vie privée. C'est ça qui est nouveau et avec des images que celui qui en est victime, Griveaux, n'a pas pu dire que ce n'était pas vrai. Hein. Un témoignage pour dire il a une liaison, il peut toujours dire que ce n'est pas vrai, mais là c'est des images, il reconnaît. Et moi, vous voyez, en écoutant ce matin le témoignage, là, quand il parle, et les Blancs, on s'en rendait moins compte quand on le regarde à l'image. Et on voit bien qu'entre les Blancs et tout ça, justement, il a une voix blanche, et on voit que c'est un homme à terre, parce qu'il est en conflit. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui est effectivement un bon père de famille, et qui en parlait avec, et il est sincère et tout ça, ce qui lui arrive vis-à-vis de sa famille, et ce qui compte sans doute pour lui le plus au monde, c'est elle, ce qui lui arrive est terrible.
Jeannick Halimi.
Oui, moi je crois qu'effectivement, ça risque de marquer un tournant cette affaire pour deux raisons. Pour la raison que vous indiquiez, Catherine Ney, c'est que en France, en tout cas jusqu'à présent, lorsque on touchait à la moralité d'une personnalité politique, c'était plutôt en termes d'hommes publics, c'est-à-dire comme vous disiez, des suspicions, des soupçons de corruption, de non-transparence, en tout cas d'illégalité au regard de la loi et au regard de son comportement d'homme public. Là, on touche non seulement à quelque chose qui n'est pas illégal, jusqu'à plus amples informations, mais en tout cas ça risque d'être le... Et puis quelque chose de personnel, d'individuel et d'intime. Donc ça c'est quelque chose effectivement d'extraordinaire, en tout cas pour la France. Mais je dirais qu'en plus, ce qui fait aussi tournant en France, peut-être d'ailleurs dans la plupart des démocraties occidentales, mais je ne parle que pour la France, ce dont je suis plus sûre, et ce qui me paraît beaucoup plus dangereux, je trouve, pour la démocratie, c'est la décision prise par Benjamin Griveaux. Voilà. Oui. Mais là, le fait qu'il s'en aille, je trouve que c'est un tournant, là, qui est de très mauvais augure.
Vous savez, si j'ose me citer, j'ai réalisé très récemment, et on peut l'écouter très facilement par tous les procédés de podcast, une série de podcasts qui s'appelle « Démission ». Et c'est l'histoire de la dégradation des démissions politiques sous la Ve République. C'est-à-dire comment on est passé de démissions très politiques, choisies, décidées par des politiques, à des démissions d'abord pour affaires et en responsabilité non plus devant les politiques mais devant le juge, et finalement pour des raisons comportementales, pour des raisons morales devant les réseaux sociaux. Okay. Et dans cette histoire, qui pour moi est une dégradation, ça se discute évidemment, dans cette histoire-là, je pense qu'une étape vient d'être franchie encore supplémentaire. Parce que c'est l'internetisation de scandales privés, de même pas scandales, de faux scandales. C'est l'internetisation, c'est-à-dire c'est par Internet qu'on fabrique une affaire strictement privée qui n'a rien d'illégal. C'est quand même quelque chose, ça, qui est totalement inédit. Et en tout cas, qui est totalement inédit chez nous. On a beaucoup parlé d'une américanisation de notre vie politique dans cette affaire. C'est un peu exagéré. En Amérique, c'est pas si fréquent que ça, même s'il y a plusieurs affaires célèbres. Et c'est presque toujours le mensonge. C'est le mensonge qui a fait tomber Gary Hart en 1987. C'est le mensonge qui a failli faire tomber Clinton en 1998. Et c'est le mensonge qui, plus récemment, a fait tomber Weiner, qui voulait être candidat à la mairie de New York. Donc, ça me semble plus être, si vous me permettez le mot, une russification. Pourquoi une russification ? Pas tellement parce que le Piotr en question est russe, mais parce que le procédé ressemble à ce que les Russes utilisent parfois, le pouvoir russe utilise parfois. Alors la différence, c'est qu'ici, ce sont des individus, pas le pouvoir, qu'on appelle en russe le kompromat. Le kompromat, avec un K, ça, c'est utiliser des images et des vidéos sexuelles qu'on se procure ou qu'on met quelqu'un pour le piéger, afin de faire tomber quelqu'un. Le premier qui a fait ça s'appelle Poutine Vladimir. À l'époque, il était chef du FSB, qui était la suite du KGB. Hein. Et il l'a utilisé pour faire tomber le procureur Skouratov, qui était le procureur qui enquêtait sur la famille de Yeltsin. Et c'est exactement ça, ce qu'on voit là. C'est-à-dire utiliser le sexe par des images, via Internet, le cas échéant, pour faire tomber quelqu'un. Voilà. C'est ça qui est nouveau.
Oui, ce qui est nouveau, il se trouve que c'est un Russe qui est à l'origine de cette divulgation.
Et
c'est
plus, ça qui est russe.
Bon, il est russe. Mais je veux dire que quand on dit que c'était des échanges intimes, sauf que
dans quelques minutes.
Ah ben d'accord.
Europe 1. Mediapolis. Europe 1.
De 10h à 11h sur Europe 1, vous retrouvez Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Mediapolis. Ce samedi, ils reçoivent Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien et co-auteur du livre Le jour où la droite se saborda, qui va sortir le 20 février aux éditions L'Archipel.
Et je vous ai coupé au milieu d'une phrase, Catherine Ney, parce que je savais que c'était la meilleure façon de garder nos auditeurs. Alors dites-nous.
Oui, je disais sauf que, si j'ose dire, en parlant de la relation librement consentie. Mais c'est quand même la personne avec qui le ministre avait cette relation qui a donné, d'après le russe qui l'a publié sur le site porno de son site fabriqué au Canada, c'est elle qui lui aurait donné ces photos que Benjamin Grimaud lui avait envoyées. Mm-hmm. Mais surtout, alors, pourquoi ce russe? Parce que c'est quand même une personnalité incroyable, quoi. Il s'appelle Piotr Pavlovski. Piotr Pavlovski, il se dit lui-même artiste activiste, mais son art, c'est lui en politique. Et sa façon de se faire remarquer, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de s'auto-mutiler. Par exemple, pour défendre les Pussy Riot, vous savez, ces fémènes russes qui s'étaient montrées nues dans une église et qui ont été mises en prison, il s'était cousu la bouche avec des vrais fils pour montrer qu'il n'avait pas le droit de parler. Ou alors après, il se roulait dans un rouleau
de barbelé.
Il s'est couper une oreille façon Van Gogh, blob d'oreille pour dire que Poutine, pour dénoncer Poutine et sa politique répressive. Et donc c'est quand même quelqu'un qui a été interné, il s'est même mis nu sur la place rouge et il s'est cloué, disons, ses testicules, ou en tous les cas la peau de ses testicules sur le... Donc c'est quand même quelqu'un...
C'est quelqu'un donc qui allait très très loin dans le choix de mode d'exhibition.
Une mode d'exhibition qui n'était pas douillé apparemment.
Mais le point commun avec là, c'est qu'il cherche son quart d'heure de célébrité comme Warhol. Voilà. C'est comme disait Warhol, à chacun son quart d'heure de célébrité.
Peut-être, oui. il a quitté Moscou en étant accusé par une actrice d'agression sexuelle. Il a vite fui parce qu'il risquait d'être emprisonné.
Oui, vous avez raison de rappeler cela. Catherine, vous avez tout à fait raison. Moi, ce qui est terrible dans cet engrenage auquel nous malheureusement, j'ose dire que nous participons, pardonnez-moi, depuis un peu plus de 48 heures, c'est que effectivement, on présente, tout le monde présente, qui est le cas, Piotr, comme étant quelqu'un, un artiste, bon, mais surtout un contestataire d'un régime qui peut peut-être légitimement considérer comme autoritaire, qui est celui de la Russie de Poutine, et que fort de cette réputation, il vient déstabiliser tout de même, ou tenter de déstabiliser, le régime que on peut considérer, je pense, tout le monde, et d'ailleurs toute la classe politique, hier, dans un grand élan, en soutenant Benjamin Griveaux, l'affirme, on est quand même dans un régime politique qui n'a rien à voir avec le régime de la Russie.
Oui, mais lui dit que c'est comparable à Poutine. Oui,
parce que c'est un ultra-gauche,
ultra-gilet jaune,
etc.
Je dis que nous, en l'intronisant comme étant une sorte de contestataire au régime qu'on peut considérer à raison comme au moins autoritaire de Poutine, on lui octroie quelques lettres de noblesse et de crédibilité au travers de ce qu'il peut faire aujourd'hui. Je dis que c'est extrêmement grave et que pour la première fois, parce que là aussi, peut-être à Saint-Tournant, on parlait tout à l'heure de tournant, depuis au moins 2 ans et demi que dure le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la première fois de la France insoumise à Marine Le Pen que tous les leaders et toutes les mouvances et toutes les formations politiques se sont élevés et se sont inscrits
avec quelques réserves, qui incriminait exclusivement Griveaux.
Oui.
Et la seconde qui a rectifié et qui a ajouté.
Marine Le Pen est allée aussi de son soutien au moins implicite.
Oui, moi, écoutez, sans vouloir incriminer Griveaux, on peut se dire qu'il aurait été plus judicieux qu'il soit prudent.
C'est sûr.
Et qu'on ne se confie pas comme ça à quelqu'un, envoyer des images, à l'heure où il n'y a plus de transparence, on peut l'accuser quand même d'une certaine légèreté.
La question politique que je me pose, je n'ai pas la réponse, et du coup, peut-être que vous l'avez. Je pense qu'une des questions politiques qu'il faut se poser, mais... la réponse, encore une fois, ne va pas de soi, c'est quelle fraction de l'opinion des Français ne pense pas sur cette affaire ce qu'estime la classe politique et la plupart des commentaires médiatiques, j'ai repéré deux exceptions près qui étaient Christophe Barbier et Judith Vintraube. Quelle partie des Français pense que non seulement c'est bien fait pour lui, mais le Piotr en question a bien eu raison de dénoncer cela? Vous allez me dire ce que vous en pensez dans quelques instants.
Europe 1. Médiapolis.
Médiapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec également votre invitée, la rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, Jeannie Calimi.
Jeannie Calimi, alors?
Alors, votre question, je la rappelle, Olivier, hein, quel pourrait être le pourcentage de l'opinion publique française qui, finalement, se frotterait les mains, se lècherait les babines de ce qui arrive à Benjamin Griveaux. Écoutez, alors moi j'essaierai de soupeser deux clans, si je puis dire très rapidement bien sûr. Dans le clan du côté de finalement cette opinion publique, elle est très marginale à vouloir la peau de Benjamin Griveaux pour aller vite. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure, deux éléments, ce sera très rapide hein, Olivier. Je disais tout à l'heure que pour la première fois depuis au moins encore une fois 2 ans et demi, toute la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, même avec certaines des réserves, vous soulignez tout à l'heure, s'était élevée contre ce procédé, premièrement.
C'est pas la première fois dans l'histoire que toute la classe politique pense blanc et une partie importante de l'opinion pense noir.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y aura une deuxième partie dans ma tentative de démonstration, bien humble, parce que tout ça, c'est quand même de la fiction, c'est fondé uniquement sur une tentative d'analyse qu'on tente de faire les uns les autres. Donc premièrement, quand même, cet élément qui reste quand même objectif. Deuxièmement, l'opinion publique française, qu'on comparait à tort à l'opinion publique américaine tout à l'heure, selon vous, Olivier Duhamel, qui, à mon avis, est quand même beaucoup plus tolérante, je dirais, même bienveillante vis-à-vis du respect de la vie privée de chacun d'entre nous et des hommes politiques, et même, tant que ça reste bien sûr dans la vie privée et que ça reste légal, d'un certain esprit gaulois, dans le bon sens du terme, de libertinage, qui a eu ses philosophes il y a fort longtemps dans la culture française. Donc voilà deux éléments qui tendraient à me faire penser que cette partie de l'opinion publique n'est pas si importante que ça à vouloir la tête d'Emmanuel Griveaux. Je termine tout de même pour compenser en contrepartie de ce que je viens de dire. Il y a quand même un contexte et un climat et puis des positions anti-Emmanuel Macron, parce que bien évidemment derrière Benjamin Griveaux, ce qu'on veut viser, ce que on... Voilà, on ne va pas définir le « on », c'est bien sûr Emmanuel Macron. Ce sentiment anti-Emmanuel Macron est extrêmement fort aujourd'hui. Et deuxièmement, ce que nous constatons depuis au moins 1 an et demi, ce climat de violence et de haine qui s'en prend non plus aux institutions, mais aussi aux personnes même de notre République, qui est extrêmement fort et dangereux contre les élites et contre le système, qui peut tout à fait contrebalancer les deux éléments dont je parlais en début. Donc pour répondre à votre question, moi je dirais, parce que je suis quand même un peu optimiste vis-à-vis de la société française, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je dirais que la partie de l'opinion qui ne hurle pas avec le loup que représente Monsieur Piotr, voilà, je la situerai quand même dans une majorité qu'on peut estimer à 60% contre ce phénomène anti-élite et anti-Griveaux, anti-Macron.
Catherine, est-ce que vous pensez que, bien entendu, les différentes formes de violence ne peuvent pas être amalgamées les unes aux autres? Bien entendu, c'est pas la même chose d'attaquer physiquement un candidat, ce qu'on a vu, que, probablement un cran en dessous, d'attaquer son domicile, que d'attaquer sa permanence électorale, que de l'injurier oralement, que d'utiliser un vocabulaire très excessif sur le fait qu'on serait en dictature ou je ne sais quoi, que je pourrais continuer longtemps. Oui. Il y a une sorte de hiérarchie des violences. Mais est-ce que cette divulgation et extension sur Internet est une violence? C'est une violence très très forte faite à une personne. Est-ce que ces violences, même s'il convient de les distinguer, pardon de la longueur de ma question, ne se font pas quelque part aussi écho les unes aux autres? Est-ce qu'elles ne s'encouragent pas les unes les autres?
Elles peuvent s'encourager, mais là, on a passé une gradation terrible. Parce que si vous dites tel homme politique trompe sa femme et on le voit entrer dans un hôtel, ressortir avec elle, on sait, il l'a trompée. Il n'y a pas d'image. On ne sait pas. Tandis que les photos qui ont été publiées, la vidéo, c'est une image qui choque parce qu'elle a d'obscène, ce qui n'est pas, il n'y a pas d'obscénité quand elle se passe entre deux êtres. Mais là, mettre voilà, ces scènes qui sont un peu violentes et classées X, c'est ces images qui
discrètent. On transforme l'auteur privé d'une vidéo privée destinée à une personne privée en auteur d'un film pornographique. Quasiment.
Voilà, c'est exactement ça qui peut choquer les gens. Bon, moi je crois que les Français sont en général très compréhensif. Si un homme politique avait une maîtresse, c'était presque, même on en faisait presque... Une femme, c'était presque différent. Mais moi, je tombe...
Il y a moins d'affaires avec des femmes.
Oui, bon, mais cette histoire tombe à un moment, malheureusement pour lui, où Benjamin Griveaux est discrédité. Personne, y compris chez les En Marche qui le soutiennent, pensait une seconde qu'il pouvait être élu. En janvier, il avait fait d'ailleurs une drôle de déclaration pour dire, vous savez, j'ai l'air comme ça, mon assurance, mes bons mots, mais derrière ça se cachent mes angoisses, mes échecs, mes épreuves, mes drames familiaux. Donc on sentait un type fragile, on lui dit qu'est-ce qui se passe, c'est pour ça. Et puis, tout d'un coup, pour se faire remarquer, il sortait des propositions comme remplacer la gare de l'Est par un Central Park ou donner 100 000 euros pour acheter un appartement. On s'est dit, là, il déraille complètement. Donc, on savait qu'il ne ferait pas un bon score. Et donc, ce qui lui arrive là, les Français, sans lui en vouloir, et qui auraient peut-être admis qu'il le reste au pouvoir, on savait qu'il ferait, après ça, encore un plus mauvais score. Ça ne pouvait pas l'aider. S'il était, au contraire, un candidat dont on dit il est formidable, ça, franchement, Paris, vraiment, En Marche, va l'emporter grâce à lui. Il y aurait une tolérance qui est plus grande. Mais venant après ces insuffisances, eh bien, les Français sont plus intolérants.
Et d'où la question... que beaucoup se posent, même si elle n'a d'intérêt que rétrospectif, mais elle a un vrai intérêt média-politique, me semble-t-il. Est-ce qu'il aurait dû, est-ce qu'il aurait pu se maintenir ? Réponse dans 2 minutes max.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney. Ils reçoivent tous les deux ce matin Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien et co-auteur avec Frédéric Delpech du livre Le jour où la droite s'aborda, qui sera publié aux éditions L'Archipel le 20 février prochain.
Aujourd'hui, c'est pas le jour où la droite s'aborda, c'est le lendemain du jour où une vidéo a sabordé Benjamin Griveaux. Et d'où la question à laquelle on vous a promis réponse serait apportée principalement par Jeannick Halimi. Est-ce que Benjamin Griveaux aurait pu se maintenir ?
Il aurait pu se maintenir et je tiens à dire en propos liminaire que je respecte tout à fait la décision prise par Benjamin Griveaux. Je préfère dire ça dès le début parce que, pardonnez-moi Olivier, pour répondre à votre question, je répondrai sur trois terrains très rapidement. Sur Paris uniquement, l'élection de Paris, c'est peut-être effectivement préférable que Benjamin Griveaux s'en aille, renonce, c'est une chose. Par rapport à la politique nationale, parce qu'encore une fois, Benjamin Griveaux, bien sûr, est un des premiers fidèles d'Emmanuel Macron. Pendant la campagne, il a été ministre d'Emmanuel Macron, et bien sûr que derrière Benjamin Griveaux, il y a Emmanuel Macron en cible. Et là, je dis que il aurait pu effectivement rester Benjamin Griveaux, mais que son départ peut procurer tout de même une possibilité de rebond et de sursaut à La République En Marche, à condition de choisir un bon candidat. Et troisièmement, c'est au plan de la démocratie. Et là, je voudrais rebondir sur ce que disait Catherine Ney, qui faisait ressortir très justement que Benjamin Griveaux était déjà sur une pente descendante. Il a commencé la campagne en étant à peu près à égalité ou juste derrière Anne Hidalgo, le Parti Socialiste, et il se retrouve aujourd'hui derrière Rachida Dati.
Vous vous souvenez que vous avez dit très brièvement.
Je vais vite, très rapidement. Donc ça veut bien dire qu'on tirait peut-être pas sur une ambulance, mais sur un élément déjà très fragile. Je veux dire par là que ce qui se passe à travers cette opération et cette machination, c'est bien sûr, je le répète, l'ensemble de notre système qui est visé et c'est notre démocratie qui est fragilisée. Et à ce titre-là, je trouve qu'il aurait été plus que souhaitable, il aurait été indispensable responsable, que Benjamin Griveaux, malgré la difficulté de sa tâche, malgré la difficulté de cette décision, qu'il reste, parce que là, on ouvre une boîte de Pandore par rapport à la démocratie, et dont il peut sortir, bien sûr, le pire.
Catherine est d'accord ?
Non, enfin, moi, je trouve qu'il devait partir. Il devait partir, même pour rendre service à son camp, parce qu'il ne pouvait faire qu'un score encore plus déplorable. Hein.
Donc, eh ben, vous savez ce que je trouve
être une catastrophe. Et vous disiez vous-même que c'était perdu déjà.
Vous savez pourquoi je trouve que c'est une catastrophe ? Parce que je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que je pense que idéalement, il aurait dû rester pour ne pas céder à ce qui est une forme de chantage internetisé d'ultra.
Dangereux.
Et en même temps, il ne pouvait pas faire autrement. Donc, c'est ça qui est terrible. Non, c'est quand on arrive à un point... Catherine, juste, je sais que vous êtes tellement fine analyste politique que vous êtes très sur le « il ne pouvait pas ». Mais moi, je trouve que ça pose quand même un vrai problème quand à un moment donné, on se dit, pour notre démocratie, vraiment, ce qu'il faut, c'est que Griveaux reste. Ah, aujourd'hui, là, dans cette situation, il ne peut pas rester. Vous vous rendez compte du problème ?
Olivier Duhamel. Oui, pardon.
Non, mais moi, je pense vraiment que s'il s'était maintenu, on dira, et en plus, il se maintient. Mais il est mauvais, et en plus, il se maintient. Mais comment Macron laisse faire une chose pareille ?
Mais Catherine, parce qu'on aurait raison.
Mais c'était possible. On dit vraiment, il a cette conduite qui est absolument...
Vous avez raison.
Et tout d'un coup, après l'avoir soutenu, eh bien, on aurait dit quand même, quelle conduite irresponsable ? Comment a-t-il pu faire cela ?
Vous avez raison. C'est pas pour ça qu'on a tort.
Maintenant,
vous avez raison.
Et maintenant, Olivier, écoutez, il allait perdre et il part, je dirais presque avec la sympathie de la classe politique et une partie des gens. Donc il a bien fait de partir. Bah, moi, pour lui et pour sa famille.
Bah, écoutez, dans votre en même temps, très rapidement, Olivier Duhamel, soit on met, il ne pouvait pas rester, mais au nom de la démocratie, il aurait dû rester, soit on fait le contraire. Au nom de la démocratie et de l'idéal, il aurait dû rester, mais... de façon très prosaïque, il a bien fait de partir. Bah, chacun de choisir la hiérarchie qu'il veut.
On peut déjà s'accorder sur cette conclusion et sur un fait élémentaire simple, c'est que de toute façon, chacun reconnaîtra que c'est à lui qu'appartenait la décision.
Bien sûr.
Et que donc, quand il l'a prise, on ne peut que la respecter. Mais tout ceci s'inscrit dans un grand dérèglement qui touche l'ensemble des élections municipales et qu'on va aborder maintenant, enfin, dans quelques instants.
Europe 1. Mediapolis.
La rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien, Jeanne Calimi, est votre invitée ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Et oui, et donc je disais, ceci n'est que le point extrême. L'orage tonitruant qui ne fait que la suite de nombreux nuages. Écoutez Édouard Philippe au Havre hier, si je ne m'abuse.
Dans une démocratie, les débats doivent être passionnés. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un débat terne. Je vais même vous dire, j'aime bien ça. Mais ça doit s'accompagner d'une forme de mesure, de retenue, de civisme, qui fait qu'on laisse s'exprimer les autres. Et lorsque on interdit, par la voix, par l'écrit, ou par la contrainte, à des élus de s'exprimer dans une réunion, ou lorsque, par le nombre, on veut créer une forme de rapport de force et de menace, alors, me semble-t-il, on n'est pas à la hauteur des enjeux.
Oui, c'était donc le Premier ministre en campagne au Havre, mais qui était en quelque sorte à sommet, en tout cas interpellé sur la démission, le retrait de Benjamin Griveaux, et qui répondait de façon plus générale.
Qui répondait de façon plus générale, parce que plusieurs fois, des grévistes, des gilets jaunes ont tenté de venir troubler sa réunion aussi.
Est-ce que... Je vais poser une question naïve.
Allez-y.
Est-ce qu'il y a une petite chance que du coup, les uns et les autres se reprennent et que tout ça se calme un peu, qu'on arrête un peu de tout hystériser, qu'on arrête un peu toutes les formes, ou qu'on atténue au moins les formes de violence ?
La violence, elle est dans les réseaux sociaux, elle est dans Twitter, elle est quotidienne, la violence.
Elle est aussi dans certaines forces politiques.
Elle est aussi dans certaines forces politiques.
En tout cas, dans les propos tenus par certaines forces politiques.
Oui, oui, oui.
De ce côté-là, alors, Jeanne Calimi, on peut espérer de ce côté-là, au moins
non, parce que je veux dire que la France insoumise continue d'accuser le régime autoritaire, voire de dictature d'Emmanuel Macron. Il y a des outrances, vous voyez.
Mais on s'habitue d'ailleurs à ces outrances. Regardez, prenons qu'un exemple. Quand on évoque la perspective qu'éventuellement on ait recours à l'article 49.3 à un moment ou à un autre pour faire adopter la réforme des retraites. tout le monde dit que ce serait, enfin tout le monde, énormément de gens disent, alors tous les politiques hostiles à gauche, mais d'autres, chez parfois les commentateurs, ce serait passer en force, ce serait un coup de force, ce serait un acte autoritaire, un coup de force. C'est prévu dans la Constitution, ça a été étudié, employé par nombre des premiers ministres, ça ne serait employé qu'après des heures de discussion, pas avant même la discussion, comme on l'a vu parfois dans le passé. Et tout d'un coup, on dit, ah là là, ce serait une preuve de plus d'un régime autoritaire. Il y a quand même une déformation de l'esprit là-dedans.
Oui, je suis d'accord, il y a une déformation de l'esprit. Il faut reconnaître que tout de même, la Macronie, je ne dis pas qu'elle l'a mérité, mais a fait tellement d'erreurs, voire de fautes, et politiques et comportementales depuis un an et demi, qu'il faut aussi que la Macronie se reprenne, qu'elle rentre elle aussi dans le lit du fleuve.
Que tout le monde se reprenne. Alors, vous savez, on a beaucoup parlé là, à propos de l'affaire Griveaux, des réseaux sociaux. Par ailleurs, à Mediapolis, on suit les élections américaines, parce qu'il n'y a rien de plus médiapolitique qu'une présidentielle américaine. Et Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, a repéré pour nous un article du New York Times, daté du 13 février, sur la campagne du milliardaire Bloomberg. Sur M. Bloomberg, candidat démocrate à l'élection présidentielle, qui a engagé et payé très cher certains des plus grands fabricants de mèmes sur Internet. Les mèmes, ce sont des images qu'on utilise et qu'on détourne pour faire de la propagande sur Internet, sur Instagram. La stratégie de cette campagne, c'est quoi? C'est la confusion. Même si les mèmes publiés ont été accompagnés de la précision « annonce sponsorisée par Mike Bloomberg », il est évident que de nombreux abonnés ont supposé que les messages étaient satiriques, car toutes les publications sont apparues sous forme de faux messages directs du candidat. Par exemple, sur le compte Instagram de @TankSinatra, qui compte plus de 2 300 000 followers, le compte Tank.Sinatra, l'influenceur a publié une capture d'écran de sa conversation avec Mike Bloomberg. Mike lui dit « Monsieur Tank, j'attends mon mème depuis si longtemps que j'ai appris à les faire moi-même dans Photoshop. Que pensez-vous de celui-ci ? » Avec en dessous une photo de Bernie Sanders, le candidat de la gauche du Parti démocrate, fronçant les sourcils, accompagné du texte « Je vous demande de m'aider à avoir l'air cool. » Monsieur Tank Sinatra, de son vrai nom George Reich, parie sur le fait que cette campagne sera un élément efficace pour atteindre les gens là où ils sont et rivaliser avec la puissante opération numérique du président Trump. C'est l'annonce la plus réussie que j'ai jamais publiée, a-t-il déclaré. Et je pense que ça vient en grande partie de la confusion des gens, qu'elle soit réelle ou non. Alors là, ça aussi, vous comprenez, c'est une étape supplémentaire dans ce que moi j'estime être la dégradation de la démocratie, quand un candidat à l'élection présidentielle délibérément fabrique des images, des spots, des bouts de trucs sur Instagram où on ne sait pas où est le vrai et où est le faux.
Oui, mais enfin, vous rendez compte, je vous demande de m'aider à avoir l'air cool, c'est des enfantillages, c'est pas très méchant, ça n'a que soit la personne,
c'est méchant.
Mais dépenser autant d'argent, c'est même pas productif. Moi, je trouve qu'il dépense son argent pour rien, 300, je veux dire.
340 millions d'euros a dépensé Bloomberg pour ce type d'advertisement.
Donc, non, c'est ça qui est obscène.
Mike, Catherine Ney dit que tu dépenses ton argent pour rien. Bon, d'accord. Ouais. Mais moi, c'est pas tellement le problème que ce soit efficace ou pas, encore que c'est surtout que la notion de vrai et de faux, déjà, elle est constamment piétinée par Trump et délibérément. Mmh. Et parfois avec succès. Mais si maintenant le candidat démocrate
dont
le seul
Trump,
objectif
Trump
est de
fait bien
Trump
pire que
Paris.
Bloomberg, là, c'est vraiment.
Léonard Cohen, dans une chanson, disait l'Amérique est le berceau du pire et du meilleur. Alors, c'est certainement pas le pire. On a vu pire aux États-Unis avec ce que fait Bloomberg. C'est vrai qu'on attendait beaucoup mieux de la part d'un type, d'une personnalité, comme le patron de Bloomberg qui a été maire de New York. On attend en tout cas encore autre chose. Peut-être des idées programmatiques un peu plus fortes. Alors, est-ce qu'il faut consolé, il n'est pas, M. Bloomberg, avec tout le respect qu'on lui doit, il n'est pas en tête pour le moment des palmarès et de la sortie des deux caucus, enfin des primaires qui ont eu lieu déjà
dans
New Hampshire.
Mais il ne s'est pas
Hampshire.
Présenté.
Il s'est présenté, il n'y est pas allé. Il préfère les réseaux sociaux.
Non, il n'était pas candidat. Non,
il n'y a pas été.
Ni au caucus de l'Iowa, ni au New Hampshire. Et d'ailleurs, je signale que par rapport à la semaine dernière, entre deux, il y a le New Hampshire et au New Hampshire, il y a deux vainqueurs vrais. Un vainqueur attendu qui est Bernie Sanders, un petit peu moins en tête que prévu, mais quand même. Deuxième vainqueur moins attendu, Pete Buttigieg.
C'est compliqué.
Et fiasco complet, Joe Biden, qui arrive cinquième, en dessous de 10 points. Donc on attend avec impatience le Nevada, où c'est un caucus, et la Caroline du Sud, où Biden est censé pouvoir se refaire. On vous racontera évidemment tout ça. On ne va pas quand même terminer l'émission sans parler de quelque chose qui existe encore. De quelque chose qui existe encore en politique française. Et quoi ? Vous allez voir dans quelques instants.
Europe 1. Mediapolis.
Jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Et ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney, vous recevez Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Elle a publié avec Frédéric Delpech, enfin, elle va publier Le jour où la droite se saborda aux éditions L'Archipel, et ce sera le 20 février.
Et alors, qui existe encore ? Eux, écoutez.
La situation des Républicains au lendemain des Européennes, on a failli disparaître. Vous savez, la première commission d'investiture, il a fallu qu'on mouille la chemise pour trouver 15 candidats qui voulaient l'investiture LR. On a été confronté à une situation difficile. Chacun a besoin de faire des efforts. On a l'exigence de l'unité, du rassemblement. Pour moi, il y a deux lignes. C'est la clarté de nos positions, pas de confusion avec En Marche. Et c'est l'unité. Voilà, c'est ça qui va nous faire remonter d'une situation un peu difficile où nous nous trouvions.
Qu'est-ce qui est pire pour la droite ? Qu'est-ce qui est le plus dur ? Qu'est-ce qui la divise le plus ? Les idées, l'idéologie, la ligne politique ou les batailles de personnes ?
Je vais vous décevoir, Olivier.
Vous allez me dire les deux, c'est
ouais, ça ? Je tranche. Ah, je suis désolée. Alors, bien évidemment, notre esprit cartésien, on est tous des intellectuels en France, hein, bien sûr. On aurait tendance à dire que, bien évidemment, il faut une ligne idéologique à peu près cohérente et que les problèmes ou les questions d'individus passent après. Mais ce qui est peut-être vrai globalement dans l'idéal l'est peut-être un peu moins. Pour la droite a quand même une culture du chef, du leader, beaucoup plus forte que pour la gauche. Donc pour cette raison-là, pour la droite, je dirais que les deux sont indispensables, et les idées, et le problème de l'incarnation. N'empêche que lorsqu'il y a une guerre des chefs et qu'en plus, il y a des idées qui partent dans tous les sens, si je puis dire, qui manquent de cohérence et qui manquent d'homogénéité, ça fait beaucoup pour un même camp.
Catherine Ney.
Oui, ça fait d'autant plus beaucoup que la guerre des chefs, il n'y a plus de chefs.
C'est la guerre des pas chefs. Là, pour l'instant, c'est la guerre des pas chefs.
Il y a beaucoup de chefs. Il y a des aspirants. Oui, des aspirants à être chef. Mais il n'y a pas de chef qui s'impose. Parce que s'il y en avait un qui s'imposait dans ce parti qui est effectivement, qui a besoin, qui est un parti bonapartiste et qui n'aime qu'une seule chose, c'est être derrière lui et suivre. Et là, pour l'instant, on n'en voit pas.
Qu'est-ce qui va fabriquer un chef ? La première chose qu'il va fabriquer, c'est qu'il en aura besoin. Et en général, quand c'est le vide et qu'il y a besoin, ça se remplit. La deuxième chose qui pourrait contribuer à le fabriquer, ce sont les sondages. Oui. Si quelqu'un émerge plus que les autres, on aura tendance à s'agréger autour de lui.
Oui. Alors, moi, je trouve quand même qu'il y a la définition d'une ligne aussi large. Je ne me contredis pas par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais tout de même, une ligne où, politique et une ligne idéologique avec un petit i, hein, bien sûr, où il y a quand même quelques éléments forts qui ressortent, s'avère indispensable. Mais encore une fois, il y a des lignes tant à droite et à gauche qui peuvent être extrêmement larges. C'est pour ça que, même voire contradictoires, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas l'essentiel. Mais tout de même, quelques curseurs de pensée, de réflexion qui ressortent, c'est d'accord, indispensable. Et puis, effectivement, une tête qui cette ligne-là.
Aux États-Unis,
et aussi, pardonnez-moi, je termine, les moyens politique,
oui, mais alors, attendez,
d'assurer la cohésion de ce parti.
Aux États-Unis, ils ont trop de choses pour fabriquer le leader. Aux États-Unis, on le voit là dans tout ce qui se passe, parce qu'ils ont les primaires, mais des primaires étalées dans le temps. Ils ont l'argent, parce qu'il faut collecter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont les sondages et ils ont la couverture média. Et tout ça forme un cercle qui fait qu'il y a des boules qui montent et des boules de neige qui grossissent, si le but est d'avoir le plus de neige possible, et d'autres qui fondent comme neige au soleil. Et nous, on risque de ne plus avoir les primaires, parce qu'apparemment, ils n'en veulent plus. Heureusement...
Ça leur a pas si bien réussi,
heureusement, on n'a pas l'argent. Donc, ça va devenir encore plus compliqué. Ce qui fait que, juste pour terminer avant la chanson, mais d'un mot et d'un seul, et à notre invité, Jeannick Halimi, si vous me donnez le nom de celui qui aurait le plus de chances d'émerger pour incarner, quel nom vous sortiriez ? Allez, un nom et un seul, allez-y.
François Baroin.
Merci beaucoup. Elle a répondu franchement, directement Et en deux mots, le prénom et le nom rarifient.
Je peux expliquer.
Ah, je peux expliquer. Vous ne pouvez pas, il est trop tard. Mais oui. Catherine, il y a la chanson.
À condition qu'il en ait envie. Absolument. Ah.
Toujours le fameux critère de l'envie, c'est la loi, Catherine Ney.
Absolument.
Et pendant ce temps-là, nous...
la promesse de l'aube.
Cette année était aussi cette semaine était aussi une semaine placée sous le signe du handicap et d'un certain nombre de décisions annoncées en la matière. Tant et si bien que notre cher réalisateur Jean-Luc Arblade nous propose, à juste titre, une très belle chanson d'Isamel Mavro qui s'appelle Différence et qui est de 1978.
T'as pas les mêmes couleurs, t'as pas la même voix, t'as pas les mêmes heures, t'as pas les mêmes doigts. C'est pas la même vie, c'est pas la même histoire, pas les mêmes jolis, pas les mêmes devoirs. Différents. Différence. T'as pas les mêmes yeux, t'as pas les mêmes mots. Ta vie en couvre-feu, tu la vis en solo. T'as pas le même cœur, pas le même sourire. Dessine-moi, j'ai peur, un bateau pour partir. Différence. Différence. T'as pas les mêmes regards, pas les mêmes silences, pas les mêmes départs de mon port de plaisance. T'as pas les mêmes parfums, pas les mêmes essences. La voiture ou le train sont de longues distances. Différence. Différence. T'as pas les mêmes couleurs, tu as pas les mêmes couleurs, tu as pas la même.
Alors j'ai écorché son nom parce que je découvre, grâce à Jean-Luc, cette chanteuse magnifique Isabel Mayro. Son album Souffle en l'air date de 1978. Merci beaucoup Yannick Halimi.
Merci à vous.
Merci à la préparation Capucine Patouillet, à la réalisation Jean-Luc Arblade, à l'animation Justine Holman. À la faire écouter en podcast sur europe1.fr tous nos auditeurs. Et à tous samedi prochain. Et maintenant, vous allez retrouver l'ami Marionne.
Oui, à la table des bons vivants. Et en plus, la table va nous aider à mieux choisir à la poissonnerie aujourd'hui. Alors, c'est plutôt intéressant. Bonjour Laurent.
Merci à vous, chère Catherine Olivier. Bonjour et bonjour Justine. Ce matin, on s'intéresse à la pêche durable avec le chef Christopher Coutonceau. On va vous aider à changer vos habitudes au rayon poisson. Et puis, pour rester sur un air iodé, nous partagerons des oursins avec la bonne vivante Chantal Goya. Voilà, vous savez tout. À tout de suite.
À tout de suite, Laurent.